Sud Radio Midi, Arthur Delaborde.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Au collège et au lycée, seuls les non-vaccinés auront cours à distance dès la rentrée de septembre s'il y a un cas de Covid dans une classe. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est donc une inégalité d'accès aux établissements qui, semble-t-il, va se mettre en place entre élèves vaccinés et non-vaccinés. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, le professeur de philosophie René Chiche, vice-président à et démocratie du syndicat CFE-CGC et également membre du Conseil supérieur de l'éducation. Et puis, aux alentours de midi et demi, nous parlerons des universités françaises et des ingérences étrangères qui les menacent. Une mission d'information sénatoriale veut alerter sur ce sujet. Nous serons avec son rapporteur, le sénateur des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Un numéro pour réagir, vous poser vos questions, c'est le 0800 26 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Midi, Arthur Delaborde.
Et merci d'être avec nous sur Sud Radio pour discuter ensemble de l'actualité. Vous nous appelez au 0800 26 300 300 et on en sait donc plus aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles va se dérouler la rentrée scolaire. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour René Chiche.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vice-président Action et démocratie du syndicat CFE-CGC. Vous êtes également membre du Conseil supérieur de l'éducation. À partir du mois de septembre, s'il y a un cas de Covid dans une classe au collège ou au lycée, tous les élèves qui ne sont pas vaccinés auront cours à distance. Les autres, ceux qui sont vaccinés, pourront eux continuer à aller en classe. C'est donc la principale annonce du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce matin. C'est tout de même assez clairement une inégalité d'accès à l'éducation dans le secondaire entre élèves vaccinés et non vaccinés qui vient d'être annoncée. René Chiche, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors attention, parce que là, vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Ce sont les élèves qui se révéleront cas positifs, qui seront évincés, selon la terminologie officielle, s'ils ne sont pas vaccinés. Uniquement cela. Donc, c'est pas une inégalité d'accès a priori en fonction de l'état vaccinal, évidemment. Sauf que de la part de gouvernants qui disent une chose et qui font ensuite le contraire, de la part de gouvernants qui osent réserver l'accès aux soins aux personnes qui sont susceptibles de présenter un certificat d'immunité vaccinale, on peut s'attendre au pire, on peut s'attendre à tout. Et là, en l'occurrence, Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer ce que son Premier ministre, son chef de gouvernement, c'est-à-dire M. Castex, avait exclu en disant qu'il n'était pas question de priver d'école les élèves. Car, évidemment, là, on instaure un enseignement à deux vitesses. Et en fait, cette mesure est parfaitement, non seulement elle est scandaleuse, elle est parfaitement illégale et elle est surtout absolument inutile. Je voudrais juste dire d'abord que le projet de loi, enfin la loi puisqu'elle a été votée, destinée à renforcer les mesures sanitaires, n'envisageait absolument pas les établissements scolaires. Ils n'étaient pas inclus dans les lieux où il fallait montrer, prouver qu'on était vacciné. Donc, j'aimerais savoir sur quel fondement légal Jean-Michel Blanquer prétend exclure des établissements les élèves qui ne sont pas vaccinés. Là, il y a déjà un problème de droit, mais je sais très bien quelle réponse on va me faire. On va me dire « Ah ben, c'est une situation d'urgence, etc. etc. » Et c'est là qu'on en vient au deuxième point, c'est-à-dire au caractère complètement inutile de cette mesure, étant donné que le ministre a affirmé une contre-vérité en disant que lorsque les élèves étaient vaccinés, ils n'étaient pas contagieux. C'est absolument faux. Par conséquent, d'une façon totalement arbitraire, on va exclure certains élèves et les envoyer suivre des enseignements à distance qui sont, qui sont un pis-aller, qui n'instruit personne. Il y a autre chose qui est très grave et sur lequel je voudrais aussi attirer l'attention de vos auditeurs. Comment va-t-on connaître le statut vaccinal de ces élèves?
Oui.
Qui a ces données? Le ministre est allé très loin, il a même parlé du statut vaccinal des enseignants eux-mêmes ou des personnels, puisqu'il a lancé un chiffre qui est celui de 80% du personnel déjà vacciné. Et les journalistes qui lui ont demandé mais d'où il tenait cette information, il leur a répondu ah ben, je ne peux pas le dire. Vous voyez que là, nous sommes exactement, nous sommes en train de voir ce que représente exactement ce pass sanitaire. C'est-à-dire que c'est un moyen de contrôler, de ficher, de collecter des données sur les personnes à leur insu et de pouvoir effectivement surveiller. On a vraiment de quoi s'inquiéter et je pense que les établissements scolaires comme les hôpitaux, c'est vraiment touché à ce qui est sacré. Et il y a des limites à ne pas dépasser.
René Chiche, peut-être pour revenir sur votre précision initiale, ce sont donc les élèves cas contact vaccinés qui pourront aller en cours et les élèves cas contact non vaccinés, eux, ne pourront pas aller en cours, en tout cas dans les établissements. Ils auront des cours à distance. On est bien d'accord là-dessus?
Oui, oui. Cas contact ou cas positif. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, c'est un non-sens. Encore une fois, il faut rappeler que la vaccination n'est pas du tout un moyen de ne pas être porteur, ni de ne pas transmettre le virus. Donc, qu'on arrête de prendre des mesures absolument insensées, disproportionnées, pour écraser une mouche sur une assiette en porcelaine, en fait, avec un marteau. Donc, on casse l'assiette en porcelaine, mais la mouche, elle continue son trajet. La mouche, c'est le virus, et le virus va continuer de toute façon à circuler. Il faut aussi savoir que dans ce protocole, on rétablit l'absurde port du masque. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on rétablit dans ce protocole. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Mais même dans celui qui est présenté comme le niveau 1, le vert, on oblige à porter le masque, sauf à l'école primaire. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas supporter en tant qu'enseignant, soucieux de l'intelligence et de cultiver l'intelligence de mes élèves, qu'on dise n'importe quoi et qu'on fasse faire n'importe quoi. Et je ne peux pas non plus l'appliquer en tant qu'enseignant, sauf à contredire exactement tout ce que j'en sais.
Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être, sur cette situation des enseignants. Pas de vaccination obligatoire, donc, pour les profs du primaire ou du secondaire pour l'instant, même si une nouvelle enquête sera commandée avant la rentrée. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'il y a tout de même des craintes chez les enseignants qui ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'ils pourront assurer les cours normalement? De ce point de vue-là, le ministre est rassurant, mais il laisse quand même la porte ouverte à une évolution de cette situation, hein, René Chiche.
Mais bien sûr, je vous ai dit qu'il fallait s'attendre à tout, et y compris au pire. Il faut quand même revenir un petit peu aux raisons qui ont été invoquées par ce gouvernement pour imposer l'obligation vaccinale à titre professionnel à certaines professions, celles qui sont, j'insiste là-dessus, celles qui sont non pas seulement au contact de la population, mais au contact de personnes fragiles,
oui.
De personnes vulnérables.
Les plus vulnérables.
Voilà. Alors, de deux choses l'une. Ou bien ces personnes vulnérables sont vaccinées. Si le vaccin est efficace, ces personnes vulnérables, elles ne risquent rien. Et on fait tout ça pour rien. Ou bien elles ne sont pas vaccinées, donc effectivement, vacciner l'ensemble de la population simplement parce que des personnes vulnérables ne sont pas vaccinées, ça n'a pas de sens non plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'obligation professionnelle de la vaccination concerne effectivement des personnes très spécifiques, dans des endroits très spécifiques, et je ne vois pas au nom de quoi les enseignants devraient subir une telle obligation. Mmh. En tout cas, une fois de plus, le gouvernement est en train de prendre un tas de mesures qui sont des entorses graves à l'état de droit, qui font vaciller l'état de droit, alors qu'il aurait, s'il était aussi confiant que cela dans la vaccination et dans le rôle qu'il lui fait jouer, parce qu'en réalité, je vous rappelle que la vaccination, elle est pour se protéger soi-même, elle n'est pas du tout pour faire diminuer la circulation du virus, ça c'est un mensonge absolu. Mais s'il était aussi confiant dans cette stratégie vaccinale qui est la sienne, mais qu'il aille jusqu'au bout et qu'il impose la vaccination à toute la population plutôt que d'avancer de cette façon qui n'est pas saine en République, j'allais dire en démocratie, mais en fait, ce n'est pas la question de la démocratie, c'est la question de la République. Parce que la République, c'est le régime qui s'adresse quand même à l'intelligence des citoyens, à leur jugement, à leur capacité de discernement. On ne gouverne pas une population par la ruse, par des moyens déloyaux, comme est en train de le faire ce gouvernement. Ça, c'est vraiment absolument scandaleux. Pour ce qui est de la question des enseignants, effectivement, vous avez de nombreuses organisations syndicales, pas la mienne en revanche, mais celles qui sont dites majoritaires ou représentatives, qui ont réclamé, qui n'ont cessé de réclamer des protocoles de plus en plus rigides, de plus en plus avancés. Et je crois qu'ils en sont effectivement arrivés à, comment dirais-je, être les meilleurs instruments de cette politique d'application d'un principe de précaution sans aucune précaution. On fait des dégâts considérables pour se protéger d'on ne sait quoi. Donc, voilà, l'état réel non seulement de la vaccination des enseignants, mais de l'opinion des enseignants sur la question, vous ne pourrez pas le connaître en interrogeant ces représentants-là qui ont effectivement une doctrine très particulière sur ce sujet. Alors, je crois que c'est un acte qui relève de la liberté de chacun, encore une fois, puisqu'au moment de la vaccination, on demande le consentement libre et éclairé de la personne, il faut quand même respecter cela, et tout le reste, c'est de l'intimidation.
On a aussi peut-être une question au collège pour les élèves qui ont moins de 12 ans. Que va-t-il se passer pour eux s'il y a un cas de Covid dans leur classe? On sait que la vaccination n'est pas pour le moment bien recommandée, hein, en tout cas pour les moins de 12 ans.
Oui, bon, ça c'est, c'est un détail, si vous permettez, par rapport à l'énormité de ces mesures. Moi, j'espère que les chefs d'établissement feront preuve de discernement, parce que en dernière instance, finalement, c'est eux qui veillent, non pas à l'application de protocoles insensés, mais qui veillent aux missions fondamentales qui sont les nôtres. Et,
je vous pose la question, parce que finalement, est-ce que ça va vraiment être applicable, ce protocole sanitaire? Avez évoqué vous-même qui va effectuer les contrôles, les certificats de vaccination des élèves. C'est vous, les enseignants?
Mais c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est-à-dire que je fais encore confiance aux acteurs de cette institution qui savent que leur principale mission, c'est d'instruire. D'accord. C'est pas d'être le relais absolument docile et sans aucun jugement de consignes qui effectivement sont impressionnantes par leur par leur excès, par leur caractère disproportionné ou par leur, effectivement, comme vous venez de le dire, par leur aspect difficilement applicable.
Est-ce que René Chiche, quand même, vous y voyez un peu plus clair avec ce protocole publié par le ministère, ce code couleur qui va de vert à rouge en fonction de la situation sanitaire au niveau local? Pour vous, ça va être plus clair que ce protocole sanitaire qui était déjà appliqué l'année passée et qui était aussi, on le sait, très complexe à mettre en œuvre?
Non, c'est aussi...
C'est aussi complexe.
C'est aussi complexe et c'est surtout aussi, comment dirais-je, ce sont des mesures d'affichage, tout cela. C'est, effectivement, ces codes couleurs, ça permet au ministère d'afficher quelque chose sur son site web, ça permet au ministre de parler, de faire croire qu'il apporte sa pierre à la lutte contre quelque chose qui nous est présenté comme la peste. Mais la réalité dans un établissement scolaire, c'est pas du tout ça. Je vais prendre simplement l'exemple du port du masque, parce que tout a commencé avec cela. Franchement, on a imposé, même par des températures caniculaires, à des élèves et même à des professeurs de porter le masque, en sachant très bien que dès qu'ils quittaient la salle de classe, dès qu'ils se retrouvaient sur le parvis de l'établissement ou dans la cour, ils ôtaient leur masque et se contaminaient joyeusement, si tant est qu'ils étaient contagieux. Donc, en fait, on a simplement affaire à effectivement une expérience de 1000 grammes en grandeur nature où on habitue les gens à obéir à des choses qui n'ont aucun sens, mais à force d'obtenir cela, d'obtenir ce consentement, effectivement, on va de plus en plus loin. Et je suis désolé, mais Ce que vient d'annoncer M. Blanquer concernant les élèves non vaccinés, c'est vraiment aller vraiment très loin. C'est pousser le bouchon très loin. Mais Mme Borne n'hésite pas non plus à pousser le bouchon très loin concernant le licenciement. Mmh. Et on voit très bien que le Parlement, et en particulier le Sénat, s'est fait complètement rouler dans la farine parce qu'il a consenti à voter un texte avec des promesses, etc. Et puis, tout est en train de se détricoter de ce point de vue-là. Hein. Je rappelle que les établissements scolaires n'étaient absolument pas concernés par ce dispositif et que M. Blanquer est en train de prendre des dispositions qui n'ont aucun fondement légal. Voilà, ça c'est l'information la plus importante.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, René Chiche sur Sud Radio, vice-président Action et Démocratie du syndicat CFE-CGC, également membre du Conseil supérieur de l'éducation et professeur de philosophie. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant pour parler cette fois des universités et des ingérences étrangères qui les menacent. Une mission d'information sénatoriale veut alerter sur ce point. Nous serons donc avec son rapporteur, un numéro bien sûr pour réagir. C'est le 0800 26 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Midi, Arthur Delaborde.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Vous nous appelez évidemment au 0800 26 300 300. Les universités françaises face à la menace d'ingérence étrangère. C'est le sujet dont on va parler à présent avec vous, André Gattolin. Bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Hauts-de-Seine, membre du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vice-président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, vice-président aussi de la Commission des affaires européennes. Et vous êtes donc rapporteur de la mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique qui lance ses travaux par une consultation des universités. André Gattolin, est-ce que vous pouvez commencer par nous résumer ce qu'ont révélé vos auditions jusqu'à présent?
Oui, alors on a commencé des auditions il y a maintenant 3 semaines seulement. Hein. C'est une mission toute récente qui doit d'ailleurs rendre ses travaux à la fin septembre. Donc, nous avons procédé à des auditions d'universitaires, mais aussi de certaines autorités responsables comme Campus France, qui est l'organisation qui va recruter des étudiants à l'étranger pour venir étudier en France. Et puis, nous allons prolonger, pour le moment, nous avons arrêté parce que c'est la période estivale, et nous reprendrons en septembre avec, là encore, un panel beaucoup plus élargi de responsables, d'ambassades et aussi des parlementaires d'autres pays qui connaissent ces phénomènes d'ingérence, d'interférence au sein de leur université et leur monde académique, de pays tiers qui essayent de s'approprier, je dirais, des savoirs, des contenus de manière plus ou moins licite.
Est-ce que vous avez récemment expliqué dans le journal La Croix notamment, c'est que c'est la Chine qui représente 80% du problème. Vous avez aussi évoqué la Turquie et certains pays du Golfe ou encore la Russie. Vous dites 80% du problème pour la Chine. D'où vous sortez cette proportion, chiffre?
Non. quand je parle de 80%, c'est bien sûr.
Oui, c'est pour se faire une idée.
On se rend compte que principalement, il y a différents types d'influences et que finalement, la Chine est le pays qui joue de toutes les palettes et qui s'intéresse finalement à tous les secteurs, les domaines du monde universitaire, que ça aille bien sûr de la recherche assez stratégique qui a des implications militaires, voire même aujourd'hui au domaine des sciences sociales. Pour les autres pays, c'est beaucoup plus, je dirais, ponctuel, larvé et de moins grande intensité. Donc effectivement, cette mission ne vise pas particulièrement la Chine, puisqu'on se pose la question de tous les pays extra-européens. On s'est même posé la question des États-Unis, puisqu'il y a 2 universités américaines à Paris. Vous voyez, donc oui. Savoir si il y a une volonté à travers ça d'influer finalement la France avec ses écoles d'enseignement à l'étranger, l'Institut français fait ce qu'on appelle en bon français du soft power, de l'influence sur la culture. Ça, c'est ce que font un peu tous les pays. C'est quand ça va au-delà, quand ça vise à peser sur des décisions ou à s'approprier, je vous dis, de manière plus ou moins licite, des recherches qui sont effectuées dans notre pays.
Et peut-être pourquoi avoir limité votre champ d'investigation aux pays extra-européens ? Est-ce que vous ne pouviez pas aussi vous pencher, vous avez évoqué les États-Unis, sur les pays européens également ?
Disons que ça reste très cadré au niveau européen. On est quand même globalement des alliés. Il n'y a pas de rivalité. On nous a parlé de certains cas de débats qui mettaient en cause la Pologne ou la Hongrie, où intervenaient des groupes d'étudiants, des choses comme ça. Mais ça reste, je dirais, à un niveau restreint. On reste entre démocratie consolidée où il y a un certain respect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois de la surveillance ou de l'espionnage, mais c'est de moindre ampleur par rapport à ce qui se passe, par rapport à d'autres pays extérieurs à l'Europe et qui n'ont pas des régimes démocratiques, pour dire franchement, des régimes autoritaires ou parfaitement illibéraux.
Alors, pour revenir peut-être à la Chine, c'est vraiment une politique d'influence qui est définie par les autorités à Pékin, hein, cette volonté d'influencer sur les universités françaises en particulier.
La Chine aujourd'hui est dans une compétition mondiale au leadership. Hein. Oui. Elle a un objectif en 2049, 100 ans après le début de la grande marche de Mao Tse-tung, c'est de devenir la première puissance mondiale dans tous les domaines. Mmh. Et il y a maintenant 6 ans, un rapport a été fait pour voir toutes les faiblesses qu'avait encore la Chine dans le domaine de la recherche, dans lequel ils investissent beaucoup, et de mettre au point des moyens d'identifier les pays qui étaient intéressants ou plus performants qu'eux pour essayer d'une manière ou d'une autre, soit à travers des étudiants, soit à travers des échanges de chercheurs, voire même parfois en soudoyant certains chercheurs français ou européens pour aller enseigner à des prix très très élevés dans des universités chinoises et au passage s'approprier une partie des connaissances, parce qu'après vous êtes totalement tenu et redevable. Et ça se fait souvent au nez des universités qui ne sont pas au courant que tel chercheur a un contrat parallèle avec une université ou un centre de recherche en Chine.
Alors vous évoquez aussi les pays du Golfe. En quoi consiste leur influence et quels sont les pays concernés peut-être ?
Pour le moment, on est vraiment à un niveau exploratoire. Hein. C'est une partie qu'on va plus analyser en septembre. Le terme de pays du Golfe était un champ très, très large. On nous a parlé, par exemple, en échangeant avec l'ambassade d'Australie. En Australie, ils ont noté des tentatives d'intrusion dans des domaines de recherche de la part de l'Iran. Bon, alors, c'est pas tout à fait le Golfe, mais parce que ces pays effectuent des recherches, ont des retards. Dans les pays occidentaux qui ont une tradition d'accueil très ouverte dans leurs universités, qui favorisent les équipes multinationales de recherche, parfois il y a un petit peu de naïveté. Tout le monde ne vient pas la science pour la science, le savoir pour le savoir. C'est aussi parfois le savoir pour le pouvoir. Et c'est bien ça qui est le plus difficile à déterminer et à délimiter.
André Gattolà, peut-être, la France, elle aussi, est-ce qu'elle n'exerce pas une forme d'influence sur de nombreuses universités dans certains pays étrangers ?
La difficulté, la France est assez peu présente dans les universités l'étranger. Elle a beaucoup vécu sur elle-même. C'est même ce qu'on peut lui reprocher, par exemple, de sa période coloniale. Les Britanniques ont développé au sein de l'Empire britannique des universités. Les grandes universités indiennes ont été créées à l'époque de l'Empire britannique. Nous, le principe, c'était de dire notamment en Afrique, on ne crée pas d'université, les élites doivent venir se former à Paris et parfois y rester. On a malheureusement quelque part peu d'influence parce qu'on aurait eu une plus grande intelligence, on aurait permis à ces pays de développer leur système universitaire. Parfois, on les aide, mais de manière, je dirais, trop secondaire pour qu'ils puissent développer leur propre enseignement supérieur.
Alors, est-ce que aussi ces influences, ces tentatives d'influence sur le monde universitaire peuvent venir, on l'imagine, également d'acteurs privés, d'entreprises ?
Oui, alors souvent, les acteurs privée ou semi-privée. Par exemple, en Chine, je ne sais pas ce qu'est une entreprise privée. Est-ce que Huawei est une entreprise privée? Et Xiaomi est-il une entreprise privée? Quand on sait qu'ils dépendent largement du Parti communiste chinois et que on peut à tout moment requérir leurs informations au nom de la puissance de l'État. Donc, oui. Effectivement, c'est un vrai souci. L'Union européenne s'est rendue compte, elle a voulu commencer à contrôler les investissements étrangers stratégiques qui étaient faits sur son territoire. Et là, il n'y a pas très longtemps, la Commission s'est rendue compte qu'en fait, ça passait de plus en plus, non pas par des investissements directs, mais par des prêts d'État, notamment de la Chine. Alors là, pour le coup, il y a un rapport de la Cour des comptes européenne de l'an passé qui montre que tous ces prêts qui sont faits à des pays ou à des institutions en Europe transitent souvent par de grosses entreprises d'État. Ce sont des prêts assez léonins. Quand vous payez pas, eh ben, le pays devient en partie actionnaire des infrastructures qui sont créées. Et c'est un vrai problème, notamment dans les pays des Balkans, notamment ceux qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. La Chine s'est précipitée là dans l'idée d'avoir demain une présence très, très forte et une influence très forte, cette fois-ci économique, parce qu'ils ne viennent pas chercher de l'excellence de la recherche dans ces pays, mais poser après dans les décisions et les choix qui sont faits au sein de l'Union européenne.
Et cette influence économique, elle peut aussi se manifester à l'intérieur même des frontières européennes. On peut prendre l'exemple peut-être du lobbying anti-nucléaire allemand. Est-ce que ça peut éventuellement avoir des conséquences sur la recherche en France ?
Alors là, on est dans un domaine, celui de l'énergie, qui est relativement souverain. Ça fait des années qu'on parle d'une union de l'énergie. On essaye d'être de plus en plus prudent sur l'autonomie d'approvisionnement, notamment sur les ressources pétrolifères de l'Europe. Ça n'empêche pas l'Allemagne, par exemple, de passer des accords pour faire un pipeline dans la mer Baltique et dans le golfe de Finlande avec la Russie, d'ailleurs au grand dam des autres. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a aucun poids pour dire à la France, vous sortez de votre prédominance du nucléaire. Ça, c'est laissé à la liste libre appréciation des États. Après, si on dit que le nucléaire est peu producteur de gaz à effet de serre, au-delà de cette contrainte-là, l'Union européenne, en l'État, n'a pas à s'en mêler.
Alors, votre mission d'information, elle a été lancée juste avant les révélations liées à Pegasus, ce logiciel d'espionnage israélien. Est-ce que vous pensez que ce mode de surveillance, comme l'illustre ces révélations autour de Pegasus, ça peut aussi eh bien servir à surveiller le monde de la recherche, en particulier en France ?
Oui, bien sûr, nos amis australiens ou britanniques qui s'intéressent beaucoup à ces questions s'intéressent beaucoup aux cybervols ou aux cyberattaques. Depuis quelque temps, on se rend compte, les attaques qui ont été faites il y a quelque temps sur Microsoft et certains de ses logiciels, plus en plus de pays disent nommément c'est une opération qui a été menée avec l'agrément ou le soutien d'autorités chinoises. Alors là, dans Pegasus, on a l'impression qu'on est plus dans le cas français, dans de l'espionnage politique. C'est-à-dire, que pensent les hommes politiques ? Là, c'est pas particulièrement des secrets d'État sur le nucléaire, militaire ou autre qui est visé, mais des opérations aujourd'hui de cybervol. Et c'est aussi là-dessus qu'on veut sensibiliser les universitaires. Les universités sont encore très mal protégées. Leurs chercheurs se baladent dans des pays étrangers avec leur ordinateur et leur téléphone. Moi, en tant que politique, on me dit, si vous allez en Chine, vous n'emmenez pas votre téléphone portable ni votre iPhone, parce que les données peuvent être aspirées de l'extérieur sans même toucher. Et donc, si vous avez des données sensibles, il faut être extrêmement prudent. Et la science est un peu trop naïve. On est dans la béatitude en se disant, pourquoi moi, j'ai des documents de recherche, qui va aller me les prendre ? Ben, si, précisément, là, c'est le vol pratiquement sans effraction visible.
Est-ce que vous avez déjà eu des réactions de la part des autorités des pays visés par cette mission d'information ? Est-ce que vous avez eu des retours ?
Dans l'intitulé, on ne vise pas un pays en particulier, même si en l'état, les retours qu'on a des gens nous pointent la Chine. Nous avons proposé à l'ambassade de Chine de l'auditionner. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a eu un coup de fil de l'ambassade de Turquie qui veut être auditionnée. Mmh. Donc, nous les auditionnerons. Après, il est important de voir comment eux présentent les choses. Vous savez, dans ces questions-là, notamment dans le monde universitaire, on peut dire qu'il y a ingérence, mais parfois il y a aussi interférence, c'est-à-dire que la naïveté ou, je dirais, l'absence de prise de conscience des enjeux qui se trament autour de la recherche par les acteurs eux-mêmes, c'est un peu comme si vous quittez votre maison pour partir en vacances en ne fermant pas la porte à clé. Oui. Et après, la compagnie d'assurance vous dit, vous avez une part de responsabilité aussi si vous êtes fait cambrioler. Le cambriolage reste un méfait, mais enfin, il y a un moment, si vous ne fermez pas la porte, vous avez, vous aussi, à battre votre coulpe.
Est-ce que finalement, les universités françaises ne sont pas potentiellement plus susceptibles d'être touchées par ce phénomène d'influence étrangère, étant donné le manque de moyens, peut-être, de nombreuses universités, qui est régulièrement un problème qui est régulièrement soulevé dans le débat public?
Oui, c'est un vrai sujet de fond que vous posez là, et c'est la bonne question. Depuis qu'on a procédé en 2008 à la loi sur l'autonomie des universités, ce qui est plutôt une bonne politique que les universités puissent choisir leur développement, ça appelle de leur part ce qu'on appelle la recherche de ressources propres, même si elle touche beaucoup d'argent et de financement de l'État. Ça appelle à une compétition sur le marché des étudiants étrangers. Donc, quand vous faites venir des étudiants de certains pays, et notamment le pays qui est le plus gros pourvoyeur du marché international d'étudiants, c'est la Chine, ça suppose aussi des responsabilités. Si vous passez des accords de coopération avec vos laboratoires et avec un institut ou une université XY, il faut veiller précisément à ce qui est fait. Et en France, on a un vrai problème de transparence. Moi, je suis par ailleurs universitaire de formation. Quand vous faites une thèse, vous n'avez aucune obligation de déclaration de conflit d'intérêts ou de vos modes de financement qui sont extérieurs. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de thèses qui peuvent être aidées par des fondations étrangères qui vont donner une certaine lecture, une certaine orientation. Certains pays en ont besoin pour leur image extérieure et redorer leur blason, qui vont être plus ou moins dithyrambiques sur tel ou tel pays, sans que, quand vous lisez cette thèse, vous puissiez savoir que la personne a été enseignant-chercheur dans l'université XY de tel pays. Mmh. Et ça, déjà, si on avait ce minimum de transparence, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, je pense que les influences seraient moins facile à perpétrer dans notre pays.
Est-ce que, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez des pistes pour lutter contre ce phénomène d'ingérence étrangère? Est-ce que vous avez déjà, on imagine, une réflexion par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans notre pays?
Je crois d'abord qu'il faut se méfier de l'entrée systématique de certains pays dans des contrats de recherche dès lors qu'il y a des enjeux stratégiques. Ce qui est difficile, pendant longtemps, on définissait un domaine qui était militaire, top secret, où là, on faisait très attention, et puis des domaines plus civils. Aujourd'hui, on se rend compte que des tas de secteurs sont duaux, c'est-à-dire que c'est du civil, mais qui peut avoir des applications stratégiques et militaires. Par exemple, l'intelligence artificielle, en tant que telle, c'est de la recherche civile, mais ça peut avoir une incidence extrêmement forte en termes stratégiques et militaires. Et là, il va falloir identifier ces secteurs et notre idée, c'est pas de travailler, je suis moi-même universitaire, contre les universitaires, c'est qu'ensemble, et surtout eux, définissent des bonnes pratiques, se disent nous avons tel problème. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de système de signalement généralisé dans les universités quand on note un incident, quand on dit tel étudiant, tiens, bizarrement, est allé faire son stage dans une entreprise stratégique et on a l'impression que des données se sont échappées vers tel ou tel pays. Aujourd'hui, il y a très peu de suivi et je pense qu'il faut sortir du temps de la naïveté qui était celui traditionnel de la science ouverte. Il faut qu'elle reste ouverte, mais il faut être prudent. Quand on fait ce qu'on appelle du peer review, c'est-à-dire du partage d'informations, on ne peut pas tout partager.
Parce que vous parlez de naïveté, mais quand même, sur certains sujets, on pense par exemple à la Turquie, quand elle finance des recherches peut-être sur la négation du génocide arménien. Là, c'est vraiment une naïveté très poussée, non ?
Oui, alors je crois aussi que logiquement, quand on fait un travail universitaire, le chercheur a sa liberté académique.
Oui.
Il a une thèse, mais sa thèse, il doit la démontrer. Et avant de la démontrer, il doit au moins faire ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire dire quelles sont les positions, les recherches qui sont souvent contradictoires avec sa propre thèse, qui ont été posées. Aujourd'hui, cette vigilance doit être véritablement accrue. Et effectivement, se méfier, parce que il y a plein de domaines où vous devez faire un terrain dans le pays. Alors, quand vous faites le terrain, ça veut dire que vous passez 6 mois, 1 an, 2 ans dans le pays sur lequel vous travaillez. Si ce pays ne vous assure pas la liberté de circulation, la liberté d'interroger les gens, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle de ce qui ressort, parce qu'on vous limite l'information. Donc, il faut pouvoir prendre un aspect critique. On a ce problème avec des étudiants étrangers aujourd'hui en France qui demandent à ce que leur copie soit anonymisée, parce que si le document sur lequel ils sont notés avec les exigences française, occidentale, de la recherche atterrissait dans leur pays d'origine, mais un, ils ne trouveraient pas de boulot, et deux, ils seraient perçus comme des dissidents, alors qu'ils ont simplement essayé de travailler selon des méthodes ouvertes et contradictoires.
Oui, d'ailleurs, le journal Libération a publié une enquête qui évoque notamment ce sujet avec des étudiants chinois. Peut-être, dernière question, quelles sont les réactions dans le monde universitaire français à votre mission d'information ? Est-ce que certains dénoncent une forme d'atteinte à la liberté académique ?
Non, alors, je crois, là, pour le moment, je sais que, par exemple, la conférence des présidents d'université s'est immédiatement proposée de nous aider. Nous avons fait un questionnaire que nous avons envoyé là, en début d'été, à l'ensemble des universités françaises, pour faire un peu un état de est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a des influences, des ingérences qui sont produites, des incidents. Donc, eux sont très coopératifs parce que le monde universitaire, vous savez, une université, c'est quelque chose de très lourd, de très gros, avec des tas d'unités, des tas de laboratoires de recherche. Un président d'université ne peut pas tout contrôler si tel laboratoire a passé un accord avec telle entreprise chinoise, russe ou n'importe quel autre pays. Donc, eux-mêmes ont conscience du problème et ils sont dans l'esprit. Moi, je suis un peu en la matière comme pour la vaccination. Je préfère qu'on fasse de la prévention, qu'on fasse parler les acteurs et qu'on convainque les gens de se faire vacciner plutôt qu'on leur impose. Quand on impose, c'est déjà un début d'échec. Donc, nous, notre but dans notre mission, c'est de faire un état, un premier état, on appelle ça un rapport vigie, c'est un sujet qui n'a pas été traité. J'ai demandé à l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est quand même consacrée à des enquêtes dans le milieu universitaire, il n'y a aucun rapport qui a été fait sur le sujet. Donc aujourd'hui, il est important qu'on sache l'ampleur. Si ça se trouve, le phénomène est trop marginal pour nécessiter des mesures ou au contraire, il est en développement, donc il l'appelle. En Australie, par exemple, ils ont pris des mesures très fermes il y a 3 ans. Et là, actuellement, il y a un rapport du même type qui est fait par le Parlement pour voir si les mesures ont été efficaces et s'il faut faire autre chose pour évoluer. Je crois que les bonnes politiques, c'est celles qui se co-élaborent avec les acteurs et pas les choses qui descendent. C'est pour ça, moi, je suis pas le gouvernement, donc je n'ai pas une demande du gouvernement pour faire cette étude. J'ai déposé ma mission comme un grand et j'ai dit aux universitaires, travaillons ensemble
Merci.
Et essayons de trouver des bonnes solutions.
Merci infiniment, André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine et rapporteur donc de cette mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire. Dans un instant, on va partir au Festival d'Avignon avec André Berkoff.
Sud Radio Midi, Arthur Delaborde.
Et de retour sur Sud Radio, on a la chance d'avoir un envoyé très spécial au Festival d'Avignon. André Berkoff qui nous fait l'amitié de nous raconter son festival depuis le début de la semaine. Bonjour André.
Bonjour Arthur. Oui, effectivement, on est dans les derniers jours, non pas de Pompéi, mais Festival d'Avignon, effectivement, qui se termine le 31 juillet. Voilà, toujours avec son lot de spectacles.
Arthur, ce qui est vouliez commencer par nous parler des raisins de la colère hein, de Steinbeck.
Des raisins de la colère de Steinbeck, formidable roman, des romans américains classiques, les plus connus. Et je dois dire qu'il y a une adaptation musicale qui est faite par une troupe formidable, Xavier Simonin et Jean-Jacques Milteau, des musiciens, et ils ont fait une adaptation musicale avec des extraits du roman de cette Amérique des années 20, des années 30, avec la misère, avec les gens qui émigraient vers la Californie. Et je dois dire que c'est toujours pareil, ce miracle du théâtre. Il y a quatre personnes, il y a un conteur, il y a trois musiciens, et on est transporté dans cette espèce d'Amérique mythique de la route 66, de la route 66, et c'est extrêmement émouvant, très bien fait et très beau. Donc voilà, Steinbeck, magnifique. Et puis, un de nos éditorialistes, Alexis Poulain, qui est souvent au Grand Matin, et qui est chez Valérie Expert, au Grand Matin de Patrick Rosé et de Cécile de Ménibus, et qui a fait avec un ancien de la TGSE, une pièce qui joue, qui raconte une interview à un ancien de la GSE sous la Libye. Ça s'appelle « L'homme qui tua Muammar Kadhafi ». Et en fait, c'est extrêmement passionnant sur le métier d'espion. Comment la DGSI recrute, comment il était en Libye, qu'est-ce qui s'est passé entre Sarkozy, les gens qui ont disparu, etc., etc. Enfin, c'est une thèse. Lui, il avance une thèse. Cette thèse-là, mais c'est très remarquablement fait, scéniquement fait, il faut le dire. Et enfin, il y a John Steinbeck et un autre grand écrivain américain qui s'appelle Jack London, évidemment le grand Jack London. Et Jack London avait perdu son inspiration et que quelqu'un vient lui raconter une histoire de prisonnier, une histoire de rédemption, une histoire très forte. Et c'est ça, Avignon, c'est-à-dire que vous avez absolument tous les goûts, toutes les couleurs. Quand on parle de diversité, eh ben, il faut venir à Avignon. Parce que la véritable diversité, encore une fois, c'est le théâtre. Et qu'est-ce que c'est que le théâtre, Arthur, sinon un miroir qui réfléchit, comme disait Jean Cocteau.
Eh bien, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, André Berkoff. Dans un instant, les clés d'une vie. Vous allez réentendre Jean-François Stévenin, l'acteur et réalisateur qui s'est éteint hier à l'âge de 77 ans.